La production théâtrale Corps fantôme, présentée chez Duceppe, fait parler d'elle, puis on va en parler aujourd'hui. Une fresque qualifiée d'indispensable par la presse et qui nous plonge au cœur des luttes de la communauté de LGBTQIA+ montréalaise au cours des années 90, en pleine crise du VIH-SIDA et de la répression policière. Nous accueillons Maxime Carbonneau, metteur en scène et idéateur de la pièce, et Joe-Philippe Lafortune, comédien. Tous deux aussi sont membres du collectif de 8 dramaturges, hein, qui ont écrit le texte. Ben, merci d'être avec nous.
Ben, merci de nous inviter.
Oui, merci beaucoup.
Je vais commencer avec vous, Maxime. Parlez-nous un peu de la genèse de ce projet Corps fantôme. Comment c'est venu, ça, cette idée-là?
Oui, ben, en fait, c'est parti pendant la pandémie de COVID-19. Qui a créé nécessairement une perspective avec l'autre pandémie, celle du VIH-SIDA. Puis je me suis retrouvé pendant la pandémie, ben, comme plusieurs d'entre nous, à être isolé. Puis donc, puis les mesures gouvernementales qui favorisaient les familles biologiques qui pouvaient se réunir puis rester ensemble au détriment des familles choisies, ça m'a un peu frappé parce que j'ai été privé d'amis extrêmement importants pour moi qui ont été aussi des figures de transmission, des figures... j'ai beaucoup d'amis soixantenaires, puis j'ai été privé de leur présence. Puis cette distance-là m'a fait réaliser, en fait, tout ce qu'ils m'avaient transmis. Sur l'histoire de la communauté, sur l'histoire du théâtre aussi. Puis donc, j'ai eu une espèce de désir de collectiviser cette relation unique-là que j'ai avec des amis, puis d'en faire un projet de groupe sans savoir exactement quelle forme ça allait prendre. Puis donc, j'ai invité des gays, des lesbiennes à se réunir autour d'archives. Mm-hmm. Puis c'est devenu, de fil en aiguille, le spectacle qu'on a aujourd'hui.
Donc, ça a commencé par Zoom, comme on dit si bien dans le temps. Ou plus ou moins.
Non, on a été chanceux, on s'est vus en deux vagues, ouais.
Ça a commencé là. Joe-Philippe, vous êtes donc, c'était 8 personnes, 8 mains. Comment ça fonctionne, travailler un texte
comme
ça?
On était plus que 8 mains au départ du projet.
En fait, 16, parce que c'était 8 personnes.
Puis il y a un entonnoir qui s'est fait naturellement, puis on est devenu 8 personnes. Mais c'était un projet assez, assez particulier, je veux dire. À 8, c'est... je dirais que c'est facile, mais en même temps, c'est pas facile, parce que, veux, veux pas, vu qu'il y a le groupe qui est là, la force du nombre puis le bon vouloir collectif va faire en sorte que tout le monde va avancer dans la même lancée, tu sais, puis on va s'arranger pour que le projet prenne vie, prenne forme et soit cohérent. Ça fait qu'en sorte que, vu qu'on était les 8 ensemble, ben, veut, veut pas, on fait des concessions, mais en même temps, c'est pour le bon vouloir du projet. Donc, ça n'a jamais vraiment été des grandes... des pertes ou des grands émois, ou dans le sens que ça n'a jamais été quelque chose de très triste, mais de se dire non à des passages-là ou d'autres passages ici, parce que vu qu'il fallait qu'on avance puis que le projet devait prendre vie, ben, on est allé pour le bien commun, tu sais.
J'oserais dire aussi que des fois, il y a tellement de groupes dans nos communautés, mm-hmm. il y a tellement d'intérêts différents. Parfois, c'est déchirant, mais on doit choisir. Est-ce qu'il y a des choses que toi... Ben là, c'est pas facile de poser la question à ce moment-ci, mais est-ce qu'il y a des choses que toi, tu sens que tu as dû laisser tomber, que tu aurais aimé qu'on parle?
Ben, en allant aux archives puis en parlant un peu au début du projet, on s'est rendu compte que la communauté haïtienne, elle avait un... était intimement reliée... tu sais, les grands H qu'on a parlé.
Ah oui, les homosexuels, les homophiles, les Haïtiens.
Oui, ouais. On sait que la communauté haïtienne, elle a été... une bonne partie de la communauté a été porteur du virus, tu sais.
Ouais.
Puis ça, c'est peut-être un pan de l'histoire que j'aurais peut-être aimé qu'on parle un peu plus, mais tu sais, avec le jeune âge que j'ai pas nécessairement toutes les ressources pour me rendre là. Puis le gros projet étant ce qu'il est, fallait faire des choix. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a parlé explicitement dans le show, mais ça reste, si on avait la chance de peut-être faire un deuxième opus, peut-être que c'est quelque chose...
Ben, à Just America, il y a deux opus, non?
C'est ça, voilà.
Moi, j'aimerais retourner avec toi, Maxime. 15 interprètes, plus de 3 heures de spectacle. On appelle ça une fresque titanesque, selon
certains.
Oui,
c'est ce qu'on dit.
C'était quoi le plus grand défi de monter tout ça?
En fait, ça a été... moi, je suis né dans le collectif. Ma première mise en scène était une co-mise en scène au début des années 2010. Puis donc, pour moi, ça va de soi, le climat de collaboration, puis essayer de créer un espace où tout le monde se sent invité à émettre son opinion, puis je cherche toujours dans n'importe quel projet, même quand c'est pas dans un esprit collectif, je cherche toujours à ce que tout le monde se retrouve à égalité d'obsession puis de connaissance du projet, pour que tout le monde, avec les outils qu'ils ont, avec le bagage qu'ils ont, qu'ils se sentent pertinent lorsqu'ils émettent leur réserve ou leurs idées. Puis toutes les idées sont bonnes. Après ça, ben il faut que ça rencontre le projet. Puis il y en a qui collent, puis il y en a qui collent moins bien. Mais si on veut une richesse de projet, puis surtout sur celui-là, je trouvais ça important que la démarche soit à l'image de ce qu'on communique dans le spectacle.
Joe Philippe, on écrit, puis on joue. Comment ça se passe, ça? Quand même. Puis, en fait, donc, on va aller là-dessus. On écrit puis on joue. Comment tu joues là-dedans? Là?
Moi, je trouve ça très vulnérabilisant. C'est la première fois que j'écris. Max, il m'avait approché durant ma troisième année de conservatoire de Montréal. Et j'avais jamais écrit. Là. Il m'a vu jouer puis il m'a trouvé bon, oserais-je dire. Puis il m'a offert de participer à ce grand collectif-là. Puis j'ai fait OK. Parce que je pense qu'il voulait... mettre des voix ensemble issues de la diversité, mais de tout genre de diversité. Tu sais. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il m'a approché, puis j'étais très content. Donc, j'ai participé à l'écriture, mais étant mon premier projet, je dois vous avouer que c'était une grande mise à nu. Mm-hmm. Se mettre à nu comme ça sur le papier. Tu sais, le papier, il fait vraiment un devoir de mémoire plus que la parole. Tu sais, l'écriture se rappelle vraiment des choses que des fois, on essaie d'oublier. Tu sais. Donc, je trouve ça très vulnérabilisant de faire ça. Puis faire ça, en plus de jouer les mots que tu as écrits, c'est comme une entité en soi qui a été une œuvre, tu sais, un cheminement. Mais je suis très content d'avoir eu la chance de faire ça. Puis à tous les soirs, pouvoir clamer les paroles que j'ai écrites, c'est quand même... c'est vraiment un privilège. Puis je suis très content d'avoir la chance de faire ça.
Tu as mentionné diversité, tu me permets. Je vais quand même mentionner le fait que tu... Et je crois d'origine haïtienne,
oui.
Ou tu as des parents haïtiens.
Entre autres.
Entre autres. Hein? Alors, est-ce que tu sens une pression? Je pense que la question se pose.
Oui, je sens une pression. C'est pas. Tu sais, j'ai 25 ans.
Oh,
et aujourd'hui, on penserait que dans la nouvelle époque dans laquelle on est, le courant de pensée est rendu un peu plus gauchiste puis que tout le monde est un peu plus ouvert. Mais moi, je vous avoue que c'est pas nécessairement mon cas dans ma famille à moi. Donc, le personnage que je joue, oui, sur les planches du CEP est intimement lié la façon dont j'ai été élevé. T'sais, ça vient vraiment de... C'est, ça vient de mon vécu. Donc, c'est ça, tu sais, je veux dire... Communauté haïtienne, ça a été cette façon d'avoir été élevé, ça n'a pas été facile. Puis on est encore là-dedans aujourd'hui. Tu sais, on essaie de s'émanciper tranquillement, mais rapidement en même temps pour être capable d'être la personne qu'on veut être. Et c'est pas toujours facile. C'est même assez difficile, mais on fait pareil. On est bien entouré. Il y a des gens qui nous aiment et qui nous
supportent.
Est-ce
que je peux rajouter une couche? Parce que vous, c'est un personnage queer dans la série Il vit écrit heureux sur Crave. Ça aussi, j'imagine que
Oui, ça secoue déjà, ça froisse un peu. Mais oui, tu sais, je veux dire, mais je pense que la représentation, surtout, je pense qu'il y a des personnages comme ça qui existent, mais ces personnages-là existent, oui, mais on n'a pas beaucoup de représentations noires, mettons, de ces personnages-là. Puis je suis très content d'avoir la chance de pouvoir porter ces personnages-là sur mes épaules puis de pouvoir les mettre à la télévision québécoise, parce qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs point qui sont issus de cette communauté-là à la base dans leur vie intime et qui ont la chance de les jouer sur les planches ou à la télévision. Donc, je suis très, très content de pouvoir faire ça, malgré le...
Oui, mais ça en a fait un personnage très attachant, dans les deux cas, en passant.
Merci.
Comment vous réagissez? Parce qu'il y a quand même quelques représentations qui ont été faites chez Duceppe. Je le dis d'entrée de jeu, moi, j'ai pleuré à quelques reprises quand je suis allé le voir vendredi. Comment vous accueillez cette réaction du public?
Ben, c'est à la fois... On a pu enchaîner le spectacle seulement une seule fois en salle de répétition avant d'entrer en salle. Ça a été un marathon, la création de ce projet-là. Puis donc, ça m'a pris du temps à prendre la mesure de ce que ça allait donner entre ce qu'il y a dans ma tête puis ce qui naît sur le plateau. Des fois, il y a un miroir plus direct, puis des fois, c'est plus... plus complexe. Puis en étant extrêmement occupé à mise en scène, j'ai pas eu le temps de me placer dans qu'est-ce, comment ça allait réagir et tout. Puis à la première, de recevoir de la part de personnes queer, y a des personnes qui m'ont dit qu'ils se sentaient à la maison dans ce... Oui. Dans cette pièce-là, qui sentaient que cette pièce-là était leur maison. C'est le plus beau commentaire que je pouvais recevoir. Parce que oui, on le crée pour, pour les communautés queer, mais aussi, je sens de la part du public, du grand public de NUCEP, une attention, puis puis ils sont bouleversés de façon égale à celle de la communauté queer, même si puis ils s'identifient au personnage aussi. Puis dans le processus d'écriture, ce qui est, tu sais, ce que Joe dit par rapport à se commettre intimement dans l'écriture, ce qui est beau, c'est qu'on a eu assez de temps aussi pour se commettre à l'intimité des autres, parce que chacune des scènes, il y a eu des personnes qui ont écrit le premier jet, puis évidemment, ça partait d'espaces plus intimes, d'espaces de vécu, d'espaces de connus aussi, ceux qui ont vécu l'époque, qui étaient au sein de l'équipe. Mais chacune des scènes, c'est passé entre les... est passé entre les mains d'autres personnes, puis ça a comme été une occasion aussi de rentrer en l'autre. Puis ça, c'est une chance inouïe qu'on a eue dans le processus. Puis je pense que ça se ressent dans le spectacle. Oui. Cette méta-rencontre-là.
Oui. Aux applaudissements, c'est assez fou, là. Puis je pense que, pour tout le monde, je pense pas ça a encore décanté en nous, le retour du public. T'sais. C'est vraiment, c'est assez gargantuesque ce qu'on vit en ce moment, là.
Alors, j'ai vraiment fait exprès pour ne pas parler de ce qui se passait sur scène parce qu'on ne voulait pas divulgâcher. Et je pense que on a réussi ça. On a réussi à parler de cette pièce. Merci beaucoup, Maxime Carbonneau. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lafortune. Je répète donc que cette pièce Corps fantôme est présentée au Théâtre du CEP jusqu'au 22 novembre. On espère peut-être des supplémentaires. Merci.
Merci.
Merci.